Parce que la parole de Dieu nous rappelle que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ésaïe 59, verset 1er. Son bras n'est pas trop court pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors on peut s'exprimer à Dieu. On peut faire monter vers lui nos demandes, nos besoins, même s'il les connaît déjà. Et même s'il a déjà prévu un plan pour chacune de nos vies. J'aimerais lire avec vous quelques versets. Le premier, on le trouve dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et on va simplement lire les versets 9 et 10 et nous ferons une autre lecture dans Romains par la suite. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Et puis dans Romains, chapitre 5, Romains chapitre 5, à partir du verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il nous est parlé, et on l'a lu, et si vous lisez le reste de ce chapitre 5 de l'épître de Paul aux Romains, vous verrez qu'il est parlé de la désobéissance d'un seul. La désobéissance d'un homme. Et qu'au travers de cette désobéissance, beaucoup sont devenus pécheurs. Et quand Paul dit « beaucoup », c'est tous ceux qui viennent après lui. Tous ceux qui sont issus de cet homme sont devenus pécheurs. Et bien sûr, son histoire de cet homme-là, Adam, on le lit dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, et il nous est parlé de cette expérience de cet homme qui va désobéir. Mais nous avons lu également que Dieu ne nous a pas destinés à la mort, mais que Dieu nous a destinés à posséder et à vivre le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Et cette destinée, c'était celle que Dieu avait choisie pour l'homme initialement dans le jardin d'Éden. La destinée de l'homme était qu'il puisse vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. La destinée de l'homme était qu'il puisse vivre éternellement. Mais il va désobéir. Et par la désobéissance d'un seul, nous l'avons lu, par le péché d'un seul, tous vont devenir pécheurs. La nature va être transformée, la destinée va être modifié. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et c'est ce que nous allons voir, que Dieu veut vous amener, veut nous amener à retrouver cette destinée perdue. À retrouver cette destinée qui devait être la nôtre initialement, qui était celle de l'homme, celle que Dieu avait prévue. Mais l'âme de l'homme a été infectée par cette maladie spirituelle que l'on appelle le péché, qui est venu dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'être humain, de l'humanité. Et tous ceux qui vont suivre après cet homme Adam vont attraper cette maladie spirituelle qui est devenue héréditaire. Et tous seront pécheurs. Et tous auront besoin de se tourner vers Dieu pour avoir une destinée de vie et non une destinée de mort. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des maladies héréditaires, des maladies génétiques. Il y en a qui travaillent dans le domaine médical. Voilà. Alors j'espère ne pas me tromper. Excusez-moi si je me trompe. En tout cas, voilà, c'est la pensée voilà, que je voulais voir avec vous. Mais dans ces maladies héréditaires, ces maladies génétiques, il y a une défaillance dans le système génétique du corps humain chez un individu. Et il est fort possible que cette défaillance se transmette eh bien, aux enfants qui seront issus de cet homme ou de cette femme qui va transmettre ce triste héritage d'une maladie génétique, d'une maladie héréditaire. Et il y a cette maladie spirituelle héréditaire qui est venue infecter l'âme de l'être humain et toute âme, tout homme, toute femme est pécheur. Paul pourra dire aux Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et son cousin, le cousin de ce verset, c'est Romains 6, 23. C'est le même numéro de verset, mais c'est trois chapitres plus loin, où il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, le salaire, eh bien, tout simplement de notre nature, notre destinée nouvelle, notre destinée modifiée, transformée à cause du péché, nous amène à vivre et à n'avoir qu'une seule destinée, c'est une destinée de mort éternelle. Et quand on nous est parlé de mort éternelle, ce n'est pas le trou noir. Lorsque nous fermerons les yeux sur cette terre, nous entrons dans un nouveau monde, nous entrons dans l'éternité. Et la mort éternelle, quand nous parlons de mort éternelle, c'est vivre éternellement les souffrances de la mort dans l'âme, avec les regrets éternels, avec des pleurs et des grincements de dents, parce que nous n'aurons pas choisi de laisser Dieu transformer et remodifier notre destinée en une destinée de vie. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu veut encore, là où le péché abonde, venir abonder par sa grâce dans nos vies, dans nos cœurs, pour changer notre destinée, changer notre éternité. Il y a eu un mauvais choix il y a des milliers d'années à cause d'un homme, à cause du péché d'un homme, mais par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance du Fils de Dieu, par l'obéissance de Jésus-Christ, qui est Dieu incarné dans le corps d'un homme, qui est descendu de son ciel de gloire et qui est venu eh bien, se limiter aux limites du corps humain. Il est venu pour mourir à notre place, pour que vous ayez la vie éternelle. Alors j'aimerais voir trois exemples dans la parole de Dieu, d'hommes, en l'occurrence ce sont des hommes, hein, qui avaient une destinée toute tracée et qui, à cause de la maladie ou des mauvais choix, eh bien, vont voir leur destinée être changée. Mais avec Dieu, c'est possible à nouveau de refaire demi-tour, de revenir dans cette destinée de vie. La première personne, ce premier exemple que j'aimerais voir avec vous, on lit notamment son histoire dans le livre, dans l'évangile de Marc. On peut le lire ensemble si vous le voulez bien. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, verset 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Jésus, les disciples arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, attendez, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. On voit cet homme qui s'appelle Bartimée, qui est le fils de Timée. Timée, ça veut dire hautement estimé. Et Bartimée était donc le fils de l'homme qui était hautement estimé, qui était reconnu. Et vous savez, à l'époque, le nom que l'on portait était la marque de ce qu'était notre vie. Était la marque, était le, eh bien, l'identification de notre niveau social, ou de ce qu'était notre métier, ou de ce qu'était, eh bien, tout simplement ce que représentait la personne. Et le père de cet homme, donc Timée, était un homme qui était hautement estimé par ceux qui étaient là à Jéricho, etc. Et Bartimée, qui donc était le fils de celui qui était hautement estimé, était destiné également à être quelqu'un d'hautement estimé, était destiné à prendre le pas de la vie de son père, à suivre l'exemple, à suivre le travail que son père avait pu faire avant lui. Mais seulement voilà, lorsque Bartimée va naître, eh bien, il va être aveugle, il va avoir un handicap, il va être malade. Et cette maladie va changer sa destinée. Cette maladie, cet handicap va modifier la voie qui lui était tracée, la voie qui devait être la sienne. Et à l'époque, il n'y avait pas de place, il n'y avait certainement pas d'école pour malvoyants, il n'y avait pas d'accès facilité pour les handicapés, il n'y avait pas devant le temple une place réservée handicapés. Et souvent, généralement, ceux qui avaient un handicap, ceux qui étaient malades, paralytiques, aveugles, sourds, etc., étaient voués à mendier pour survivre. Quel changement de destinée! Mais Bartimée va entendre parler de ce Jésus qui passe non loin de lui. Et il va vouloir saisir par la foi la guérison que Jésus est capable de lui apporter. Peut-être que quelqu'un dans ce lieu se dit que j'avais un futur, j'avais une voie tracée, j'avais des projets bien établis, mais voilà, la maladie est arrivée. L'handicap s'est déclaré dans ma vie et je ne peux plus m'engager dans les projets qui étaient les miens, dans les voies qui étaient les miennes, dans ma destinée pour laquelle j'avais tout placé. Et peut-être qu'il y a dans le cœur une grande amertume, un grand désespoir, une grande incompréhension de la situation que vous pouvez vivre. Mais Dieu est capable de changer votre destinée en apportant la guérison. Aujourd'hui, il est bien plus facile, entre guillemets, de vivre avec un handicap. Ça vient de finir, hein, les Jeux paralympiques. Et vous rappelez, comment il s'appelle ? Oscar Pistorius, c'est ça ? Le célèbre coureur qui marche avec des prothèses, enfin qui court avec des prothèses, et qui a même couru avec les valides, hein, il y a 4 ans, à Londres. Et il lui est arrivé des choses un peu extra-sportives par la suite. Mais aujourd'hui, avec l'handicap, on peut quand même arriver à s'en sortir. J'aimerais vous donner l'exemple d'un homme. Vous connaissez Beethoven ? Qui ne connaît pas Beethoven ? Ok. Ça va. Beethoven, vous le savez, c'est un célèbre compositeur. Et l'histoire nous raconte que cet homme qui rencontrait un franc succès dans la musique, il va vouloir composer une nouvelle symphonie, la 5e symphonie. Seulement voilà, Beethoven rencontre un problème. Il tombe malade et il devient sourd. Il devient sourd. Et il n'a plus la capacité de continuer sur la voie qui était la sienne. Seulement voilà, sa surdité n'a atteint que l'oreille externe. L'oreille interne fonctionnait encore. Alors il va avoir l'idée de faire scier les pieds de son piano pour que le piano soit à même le sol sur le plancher. Et à chaque fois qu'il martelait les touches de son piano, les marteaux qui venaient taper les cordes de son piano, eh bien, au travers de ces cordes qui vibraient, qui étaient à même le sol, le plancher retransmettait ces vibrations et il pouvait entendre la musique au travers des vibrations. Et vous pourrez faire l'essai, si vous avez un diapason à la maison, de taper et de le mettre sur le talon ou sur le genou, vous entendrez le La 440, une note de musique. une fréquence. Et Beethoven va pouvoir composer cette cinquième symphonie alors qu'il est sourd. L'histoire nous raconte également qu'à la première représentation, il va monter sur le promontoire et il va diriger l'orchestre, l'orchestre symphonique. Et l'histoire nous raconte qu'il va fermer les yeux, il va battre la mesure et en fait, il entendait la musique dans sa tête, il imaginait la musique dans sa tête et les pauvres musiciens essayaient tant bien que mal de suivre le chef d'orchestre et il paraît que ça n'a pas été un grand succès. Mais Beethoven, dans sa tête, c'était un grand succès. Quelque part, Beethoven s'est battu pour rester dans sa destinée et sur la voie qui était la sienne. Et quelque part également, Bartimée va se battre pour changer de vie, va se battre pour eh bien, voir le Seigneur Jésus intervenir dans sa vie. Parce que lorsqu'on, et on l'a lu, mais Jésus passe non loin de lui, et il nous est dit que Bartimée va crier à Jésus, va lui dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Alors la foule va essayer de le faire taire, dire « C'est bon, laisse-le, t'es un handicapé, Jésus doit passer, ne l'embête pas !» Mais Bartimée, il voulait de toutes ses forces saisir la guérison dans sa vie. Alors il va crier plus fort et Jésus va entendre sa prière. Et j'aimerais vous dire que si vous criez à Jésus, Jésus vous entendra. Jésus a une oreille attentive à chacun de vos cris, à chacune de vos prières. Et nous l'avons dit en introduction, et c'est le prophète Ésaïe qui le rappelle au chapitre 59 et verset 1er, « Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » Alors, exprimez à Dieu ce qui, dans vos vies, peut-être une maladie, vous empêche de connaître cette destinée de vie que le Seigneur veut vous donner. Bartimée va être au contact de Jésus et Jésus va lui poser cette question étonnante. « Que veux-tu que je te fasse ?» Il se dit, mais Jésus, c'est pourtant évident. Il est sourd. Il est aveugle, pardon. Je suis encore sur Beethoven. Il est aveugle. C'est évident qu'il va te demander de recouvrir la vue. C'est une évidence. Mais il y a une autre évidence à laquelle bien des hommes et des femmes refusent de donner la bonne réponse. C'est à cette question que Dieu vous lance cet après-midi. Veux-tu voir ta vie changer? Veux-tu voir ta destinée être changée? Veux-tu retrouver la destinée de vie qui doit être la tienne? Veux-tu être sauvé? Et combien le désir de Dieu, c'est que vous puissiez répondre, oui, oui, je veux voir ma vie changer. Et avec le Seigneur, c'est possible. C'est possible. Un autre homme qui avait une destinée et qui va voir sa destinée changer, on trouve son histoire dans le livre de la Genèse. Cet homme, il s'appelle Joseph. Fils de Jacob, 11e fils de Jacob. Et il nous est parlé de cet homme, de ce jeune homme, qui est là dans cette famille, une famille riche. Jacob hérite bien des richesses d'Abraham, son grand-père, d'Isaac, etc. Et puis les richesses grandissent. Et il avait une alliance, Jacob avait une alliance faite avec Dieu. Cette alliance était que de lui sortirait un peuple nombreux, de lui sortirait eh bien, le peuple de Dieu, Israël. Et qu'un pays lui serait destiné, lui serait donné. Et Joseph, quand on lit son histoire, on voit qu'il était le préféré de son père. Alors on peut imaginer, bien sûr on extrapole, la parole de Dieu ne nous le dit pas, mais on peut imaginer, en tout cas, moi à sa place, je me serais imaginé ça. Mon père a une destinée. Mon père a cette destinée qui vient de Dieu, qu'il aura un pays à lui tout seul, ou pour lui, et que de lui sortira un peuple nombreux. Alors moi qui suis le préféré de mon père, quelle place de choix je vais avoir? Sauf que voilà, les frères de Joseph ne vont pas apprécier que le père préfère Joseph aux autres frères. Alors, il nous est dit que les frères vont avoir en haine Joseph. Et à un moment donné, alors qu'ils sont loin du père, loin des yeux, loin du cœur, il paraît, hein, c'est pas dans la Bible, ne cherchez pas. Hein. Mais alors qu'ils sont loin, Les frères de Joseph vont voir Joseph arriver et ils vont manigancer un plan pour que Joseph ne soit plus là dans leurs pattes, qu'il ne soit plus là pour être le préféré du père. Et s'ils vont vouloir d'abord le tuer, ils vont se raviser un petit peu et ils vont d'abord l'isoler en le jetant dans une citerne. Et puis alors qu'ils vont voir une caravane arriver qui se dirigeait en direction de l'Égypte, alors ils vont vendre leur propre frère et le destiner à une vie d'esclavage, une vie de prisonnier. Et c'est ce que va vivre Joseph. Mais Joseph ne va pas lever le poing contre Dieu. Et parfois, on ne comprend pas les épreuves et les situations que l'on peut vivre. Et combien de personnes aujourd'hui lèvent le poing contre Dieu en disant « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça ma destinée? C'est ça la bénédiction ?» Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu avait un plan pour sa famille. Dieu avait un plan pour Israël. Et il fallait que Joseph passe par ces moments. Parce qu'il nous est dit que malgré tout, Joseph va rester intègre dans son cœur et qu'il va continuer à aimer Dieu. Et alors, il va là être là et à un moment donné, il va être restauré, relevé. Il va sortir de prison et il va être élevé au rang de gouverneur de l'Égypte, juste derrière Pharaon. Et alors qu'une grande famine va faire rage, sa famille va pouvoir trouver refuge en Égypte. Et c'est là qu'ils pourront vivre et vivre et survivre. Il y a un plan que Dieu a pour chacune de nos vies. Dieu a prévu des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu a formé pour vous, particulièrement, un plan précis. Et si vous faites confiance, si vous manifestez la foi en Dieu, s'il y a cette assurance que, malgré l'épreuve, vous restez droit devant Dieu, et alors Dieu vous relèvera. Dieu vous restaurera. Dieu vous réhabilitera. Dieu manifestera sa grâce dans votre vie. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la méchanceté des hommes abonde, la grâce de Dieu, la bonté, l'amour de Dieu vient surabonder. Et je termine avec un dernier exemple. C'est le fils perdu. Le fils perdu, où il nous est parlé, il nous est donné son histoire dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 notamment. On voit ce jeune homme qui vit dans une famille riche également, décidément. Hein. Et le problème, c'est qu'il se dit, les richesses ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à mon père. Et dans cette parabole, et parce que c'est une parabole, alors il n'y a pas de nom donné. Mais je crois que surtout, ça nous aide, le fait qu'il n'y ait pas de nom, ça nous aide à pouvoir nous identifier à ces personnes, à ce jeune homme, qui a une destinée, il est fils d'eux, il a un héritage qui lui sera donné lorsque son père, eh bien, fermera les yeux. Et alors, il prendra la part de son héritage, mais seulement, voilà, le fils, lui, il veut tout de suite. Il va faire, il va aller de mauvais choix en mauvais choix. Et là, ce jeune homme va réclamer, et il va totalement mépriser son père, s'impatientant de sa mort, pour qu'il puisse récupérer l'héritage qui lui revient. Alors le père va dire ok, il va lui donner la part de son héritage. Et il nous est dit que le jeune homme va partir pour un pays éloigné, et que là, dans ce pays éloigné, il va dilapider tout son bien en vivant dans la débauche, en vivant dans les abus, en vivant dans les addictions en tout genre, alcool, sexe, sensualité, toutes ces choses-là, on les retrouve aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui sont prises par ces choses à cause de mauvais choix? Et alors qu'il est là, qu'une famine, encore une fois, eh bien, fait rage dans le pays, alors il va se retrouver dans le besoin. Alors il va chercher un petit boulot. Et puis il va taper sur Internet, sur Pôle emploi. Et puis il va voir un travail dans une ferme. Et puis il va eh bien, travaillait en tant que gardien de cochons dans une ferme. Et lui, qui devait prendre soin des cochons, lui, n'avait pas de quoi se nourrir. Et là, d'un coup, comme si que ça... On s'étonne, hein, que ça ne lui arrive pas avant. Et là, d'un coup, il va avoir un sursaut en lui-même. Et il va se rappeler ce qu'était sa destinée avant de faire ses mauvais choix. Il va se rappeler que dans la maison de son père, que même les ouvriers ont du pain en abondance et que lui, il meurt de faim. Alors il va dire en lui-même, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et c'est ce qu'il va faire, il va aller direction de son père et alors qu'il est sur le chemin de la maison familiale, son père ne va pas se positionner en tant que donneur de leçons, mais il va courir vers son fils parce qu'il attendait son retour avec impatience. Ce jeune homme sentait mauvais, ce jeune homme était sale, mais son père n'avait que faire de l'état dans lequel il revenait vers lui. Et il va courir, il va l'embrasser et il va le rétablir, pas en tant qu'ouvrier, pas en tant que serviteur de la maison du père, mais en tant que fils. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et son désir, c'est de venir à nous si nous, nous voulons venir à lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, ces destinées qui peuvent être modifiées à cause de maladies, de méchanceté des hommes, ou bien à cause des mauvais choix que vous avez pu faire dans votre vie, Dieu, cet après-midi, veut vous amener à retrouver cette destinée perdue, cette destinée de vie. Je vous redonne ces versets que nous avons lus, que Jérémie donne, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. » Et la suite nous dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors cet après-midi, cherchez le Seigneur de tout votre cœur. C'est le désir de Dieu. Et si vous le cherchez de tout votre cœur cet après-midi, croyez que vous allez trouver Dieu. Croyez que Dieu va manifester sa grâce dans votre vie. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu veut surabonder. On ferme nos yeux un moment. Seigneur, je te remercie pour ta grâce qui surabonde là où le péché abonde. Ta grâce est bien plus supérieure que le péché, que la maladie, que la méchanceté, que les mauvais choix. Ta grâce, elle est parfaite. Et par ta grâce, Seigneur, nous pouvons retrouver cette destinée de vie que tu veux nous donner, que tu avais prévue pour l'homme. Seigneur, viens encore parler à chacun de nos cœurs. Viens dans ces moments, Seigneur, parler à chacun de nous. Et que Jésus, tu puisses nous amener à nous battre, à prendre cette résolution de nous lever pour toi.